Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, on va commencer avec de la BD. On va parler BD avec Thibaut de Corta qui est avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Donc toi, tu vas nous parler de Vernon Subutex qui a été écrit par Virginie Despentes.
Oui, absolument.
Mis en image par Luz. Alors on s'en parle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, musique. Musique avec Mathieu Lucier qui est bassoniste, chef d'orchestre et directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque. Et il va nous parler du concert La Chapelle du Roi Soleil qui débute la saison 2021-2022. Mais pour l'instant, on part avec une autre musique, Seba qui nous chante La main dans le sac.
Toujours trippé ses chips. J'adore le gros sel, les calories pis le crips. Quand j'étais kid, je ne j'irai que parler Humpty Dumpty. La main dans sac une minute pis fini MP. Mon tout premier hit, c'était des Laurentides. Depuis, je recherche mon first fix dans tous les sacs de chips. Rien pour remplacer cette sensation si douce. Une poignée mium mium, c'est mes madeleines de Proust. Je suis devenu addict, c'est vraiment un struggle. Si je jouais de Pringles, je vais virer mon goal. Pour tout le déjeuner, c'est deux œufs pis toast. Mousse d'un café filtre pis des Tostitos. T'inquiète pas, les cutlets, les du lac, les Julien. Y'a les sœurs de l'huitaine, pis les seuses à l'ancienne. T'as plein de barbecue pis ton ketchup. Sont toutes ben bonnes, toi, c'est quoi de ça? Quand j'ai la main dans le sac, ouais, je peux pas m'arrêter. Faut que je voie le fond du bac. Quand j'ai la main dans le sac, y'a des bébites à sucre, moi j'te sucre pour le sel. J'ai un problème avec les chips, pis je sais que j'suis pas seul. On s'entend toute là-dessus, c'est assez addictif. Tu vas virer contre qui s'il faut que tu t'en prie. C'est les tips, ça kick de tout ce que je cuisine. Ça remplace en panique si t'as pas de légumes. T'as en vitamine que dans un bol de bim. Chris vient pas me dire qu'une croustille c'est pas vigueux. 20% de sodium, 15 grammes de lipides, 2% de calcium, 36% de glucides. En version Costco, forme familiale. J'm'alimente mal, mais j'mange végétal aussi sur ma cuisson. Au bain de glutamate, l'équilibre parfait que ça fente le flic qui pile le fat. Tu plonges ta main dans le fond de ton Doritos. T'as sort qu'un coupon pour un autre. Quand j'ai la main dans le sac, moi je peux pas m'arrêter. Faut que je fasse le fond du bac. Quand j'ai la main dans le sac, quand j'ai la main dans le sac, moi je peux pas m'arrêter. Faut que je fasse le fond du bac. Quand j'ai la main dans le sac. Pour une pinte de lait, puis tu sors avec un bag au pickle de l'aise. J'suis venu pour une pomme, chaque Miss Vickies. Offre-moi un bol de fruits, j'prends la friandise. Toujours de l'huile, c'est même celle dans sa livre. Si j'crache, c'est marché, dégèle quand j'en débarque. Puis faut que la ragout de pâte, pis le gâteau carotte. J'pense qu'il me reste encore dans l'armoire. Rien qu'on quelconque, j'ai pas de problème car j'ai lâché l'alcool. En bord de la viande, pis produits agricoles. J'ai mis côté sucre, pis sirop d'érable. En moins point de chip, j'suis pas capable. J'ai essayé de mettre des pâtes, j'ai lâché la patate. Me suis mis à une marque à base de bête à cap. C'est même pas un snack, c'est une pop de crack. Il suffit d'une seule vice quand j'mets la main dans le sac. Quand j'ai la main dans le sac, moi je peux pas m'arrêter. Faut que j'voie le fond du bag. Quand j'ai la main dans le sac. Je peux pas m'arrêter. Faut que je voie le fond du bac. Quand j'ai la main dans le sac.
Et voilà. Alors Thibaut, maintenant, c'est à toi.
Et oui.
Parle-nous de Vernon.
Alors, j'avoue d'abord que c'est un truc qui m'intrigue depuis quelques années, ce titre de roman. Quant à Virginie Despentes, de son vrai nom Virginie Daget, je ne la connaissais pas. C'est-à-dire que c'est faux, j'avais vu un film basé sur un de ses romans, mais c'est tout. Et j'avais lu quelques trucs un peu incendiaires, bon, parce qu'entre autres, lors de l'attentat du 15 novembre, du 15 janvier, dis-je, 2015. Elle avait été dire que les jeunes terroristes étaient des jeunes courageux, pleins d'idéal. Ça, ça avait un peu choqué. Mais au-delà de ça, je ne la connaissais pas. Et donc, j'avais entendu parler dernièrement du fait que Luz, qui est un dessinateur, un ex-dessinateur de Charlie Hebdo, avait mis en image ce roman qui comporte 3 volumes dans sa version originale. Et là, ben moi, j'ai dans les mains un truc qui fait 300 pages. Et en plus, ils osent dire première partie. Alors,
ça se promet.
Qu'est-ce que c'est Vernon Subutex? Alors, Vernon Subutex, c'est le nom d'un disquaire, du moins d'un ex-disquaire, gars qui est rentré dans la profession par hasard un jour, mais qui avait déjà des connaissances, et dont le propriétaire qui tenait le magasin l'a pris sous son aile et éventuellement lui a légué le magasin. Et donc,
D'accord, c'est parti comme ça.
C'est parti comme ça. Okay. Et, mais sauf que ce qui arrive à un certain moment donné, probablement avec l'avènement du CD, tout ça, c'est que les disques sont tombés un peu en désuétude,
oui.
Ce qui est tout le contraire aujourd'hui. Et lui, donc, perd sa business éventuellement et se retrouve dans la rue. Et éventuellement, il n'est pas tout de suite dans la rue. Il se retrouve chez lui, mais sauf qu'il ne peut plus payer à un certain moment donné. Et donc, il se retrouve dans la rue. Et au cours de ces pérégrinations, si tu veux, il rencontre des gens qui l'ont connu dans sa vie antérieure. Puis à un moment, il faut qu'il se fasse héberger par des gens. Alors, il se promène de un à l'autre.
Oui.
Non sans conséquence, mais ça, c'est dans l'histoire. Faut le lire.
Faut lire.
Et alors, c'est assez bien vu. Et ce qu'il faut savoir sur Virginie Despentes, donc de son vrai nom Virginie Daget, c'est que c'est une femme qui a un passé assez sulfureux, si on peut dire. Mais contre son gré. C'est-à-dire? Ben, d'abord, elle a subi un viol dans son adolescence.
Ah.
Et longtemps, elle a dit que ça ne l'avait pas plus marqué que ça, alors qu'aujourd'hui, elle dit carrément que c'est un événement. Comment elle dit ça déjà? C'est. Attends, elle a une phrase que je ne vais pas me tromper. Elle dit. Je ne me rappelle plus, de toute façon. On s'en fout.
On la retrouvera, elle dit, mais que c'est un événement qui a marqué, en fait,
son œuvre.
Ouais.
Et en fait, tu vois, maintenant, c'est un détail qui est plus ou moins important là, par rapport à l'œuvre, mais enfin, avant, elle fréquentait des hommes, alors que maintenant, elle fréquente exclusivement des femmes. Je parle dans la vie intime. Et je pense que ça a un lien, en fait, avec cette expérience, donc elle a refoulé longtemps. Et elle a commencé, elle, en fait, elle a eu des périodes de toxicomanie assez intense. Elle a même fait des séjours en hôpital psychiatrique.
Ah oui?
Et, oui. Et elle a découvert Bukowski. Et c'est probablement Bukowski qui l'a inspirée à se lancer elle-même. Alors, elle a une écriture assez trash, assez directe, mais très structurée en même temps. Ce qui fait que on plonge très facilement dans son univers qui est fait de junkies, de transgenres, de laisser pour compte de la société. Puis, elle nomme un chat, si tu veux.
Oui.
Et ça, c'est assez remarquable. Et en fait, moi, je l'ai connu, Shame on Me, par un film qui s'appelle Baise-moi.
Qui est, oui, c'est
ça. Et ça vient d'un livre qu'elle a écrit, qui a été refusé par tous les éditeurs jusqu'au jour, et même elle avait perdu, en fait, le manuscrit original, et jusqu'au jour où quelqu'un lui a proposé de faire un film avec ça. Et on sait que ce film-là, c'est un peu un Thelma et Louise trash.
Oui.
Hein, mais c'est, en fait, ça parle de son expérience personnelle de viol, parce que tout le film est axé là-dessus, en fait. C'est qu'une des deux amies se fait violer.
Oui.
Et elle décide, elle et son amie, finalement, de partir sur la route, mais en abusant, mais en se vengeant des hommes, en fait.
Oui, c'est-à-dire, pour un a fait ça et tu te venges de tous les autres.
C'est un peu ça.
D'accord.
Alors, la force de Virginie Despentes, c'est pas avoir fait ça, c'est plutôt d'avoir créé. C'est plutôt d'avoir transformé cette colère en une œuvre, finalement. Mmh. Et franchement, après, on va en revenir tantôt. Là.
Oui.
Là, je me concentre sur Virginie Despentes, mais il y a Luz, qui est l'auteur des dessins, en fait, le dessinateur, qui est un ancien de Charlie Hebdo, comme par hasard. Et ça aussi, on va y revenir, quoi.
Ben oui, parce qu'il y a toute une histoire aussi sur le jour fameux. Oui. Donc, on peut encore en parler un petit peu.
Ouais. Ben en fait, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il l'a échappé belle parce que lui, il était en retard ce matin, il ne s'était pas levé, je crois, un truc du genre. Il était en retard à la réunion à Charlie. Et quand il est arrivé à Charlie, il a croisé les deux tueurs qui ne savaient pas qui il était et donc il n'a pas été inquiété. Mais il les a vus sortir de Charlie juste après l'attentat. Ce qui fait qu'en fait, lui, son retard lui a sauvé la vie.
C'est quand même dingue de continuer à vivre. Enfin. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être douloureux de continuer à vivre en se disant que c'est grâce à ça que t'as la vie sauve, quoi. Ben, c'est lourd à porter.
Écoute, il y a lui, puis il y a Coco. Je crois que c'est Coco. qui, elle, oui, c'est elle qui a ouvert les portes. Hein, puis elle s'en est voulu très longtemps.
Oui.
Et en fait, lui, il a écrit un livre que je ne me rappelle pas si je l'ai lu, qui s'appelle, enfin, un récit graphique qui s'appelle Catharsis,
oui,
justement, qui je pense qui était post-événement. Là. Mm-hmm. Mais c'est un auteur. Moi, déjà, je veux dire, moi, d'ailleurs, en bande dessinée, c'est un truc qu'on dit pas assez souvent, là. D'abord, c'est un métier de crève la faim, à part certains. Donc, lui, je suis certain qu'il crève pas trop de faim, en fait, je l'espère. Mais quand tu penses qu'un gars comme ça est capable de pondre 300 pages,
oui,
faut quand même les faire, les pages, faut les
ben
dessiner.
Oui, oui, faut
et
les
ça, c'est
dessiner,
valable pour
oui,
tous les dessinateurs. Hein.
Et puis, en plus, c'est des dessins. Alors, c'est ce que je te faisais remarquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des pages, des moments de BD qui sont peut-être un énorme dessin qui peut tenir toute la page. Là, c'est vraiment très, très,
c'est très
en plan serré, très découpé, très...
Ouais. Ouais, et honnêtement, au début, justement, alors, le style graphique, parlons-en un peu, c'est que c'est assez jeté. Hein. C'est,
oui,
on ne s'intéresse pas à la précision, on s'intéresse à l'émotion, je dirais.
Oui.
Et c'est en bichromie, ce qui veut dire que c'est en noir et blanc plus une couleur d'aplat, des fois une deuxième couleur d'aplat, mais assez rarement. Et il y a beaucoup, c'est très ancré, si je puis dire. Je pourrais comparer ça un peu à du Baru, s'il fallait comparer ça, qui est un autre auteur.
Le noir est bien noir, on voit,
ah oui,
à quel,
ouais,
point,
oui,
on voit à quel point c'est... il y a des moments forts et c'est grâce à ce trait tellement appuyé qu'on le voit aussi.
Ouais.
Mais on va faire une petite pause,
ouais, ouais,
musicale, puis on revient tout de suite après. Donc on va écouter Nora Jones qui nous chante By My Somebody.
I'm too foggy. Lips are moving so fast, and I just keep praying for them to slow down so I can make some sense of the words that are pouring out of your crooked spout. Last night was a record to be broken. Broke all over the kitchen floor. Oh no, don't you go.
Alors voilà, on vient donc d'écouter Norah Jones et maintenant on continue, Thibaut. Parlons un petit peu rentrons un petit peu plus dans l'histoire de Vernon. Alors juste un petit trait, c'est que j'ai vu en faisant mes recherches que au niveau de l'usine C sur l'année 2022, ça va être porté au théâtre.
Donc, je me demande comment ils vont faire ça. Hein.
C'est moi aussi, c'est la question que je me pose en disant comment le personnage. Mais après, c'est toute une question de metteur en scène et il y a non moins que Angela Conrad qui va mettre en scène, donc on verra ça.
Que toi tu connais, semble-t-il.
Oui, que j'ai déjà reçu en entrevue et qui est une metteur en scène absolument fabuleuse. Mais je suis quand même curieuse de savoir comment une histoire comme ça peut être sur une scène de théâtre.
C'est-à-dire que tu vois, j'ai peut-être une clé déjà, c'est que en fait le livre commence, enfin la bande dessinée, parce que je dois admettre que j'ai pas lu les livres d'où sont tirés le récit graphique.
D'accord, toi tu as lu la bande dessinée, oui.
Ouais. Mais ça va peut-être me forcer à lire finalement les trois livres, parce que c'est tellement bien fait que je me dis, si ça c'est pas mal, le livre doit être très bien.
Oui,
bon.
Oui.
Ça commence donc, tu vois une silhouette, probablement...
Celle de Vernon?
C'est féminine.
Non,
alors,
ah non.
Non, c'est féminine qui dit, assieds-toi et prends quelque chose. Alors elle dit, est-ce que j'ai le droit de fumer dans cet endroit? Je sais pas, ici à part toi, personne ne sait qu'elle existe, cette cigarette. Personne d'autre ne peut la voir parce que j'en ai décidé ainsi. Et on doit parler des choses, de choses qui ne regardent que toi et moi. Je vais te raconter la véritable histoire de Vernon. Alors déjà, je dirais un truc, moi, ce qui m'a tout de suite titillé dans toute cette histoire-là, en fait, avant même que j'aie connaissance de ce bouquin-là, c'est Vernon Subutex. Ça, je suis certain que c'est moitié pour moitié du succès de ce roman. Parce que c'est un nom que tu n'as jamais entendu.
Oui.
On ne sait pas d'où ça vient. C'est intriguant. Et ça, je suis certain que c'est un très bon truc.
Peut-être.
Et ouais. On part tout de suite dans le vif, c'est-à-dire qu'on voit Vernon dans son appart, à moitié déglingué, c'est le bordel total. Et c'est lui maintenant qui se rappelle qu'il a été disquaire pendant 25 ans. Il relate.
Ah, ben, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui lit et des souvenirs qui
c'est,
se.
Voilà, c'est ce que je
joue.
Pense.
Ouais.
Et c'est là que, comme je te disais, il débarque un jour chez un disquaire et je pense qu'il cherche du boulot, je ne sais pas trop quoi. Et le gars lui pose des questions à savoir qu'est-ce qu'il connaît,
ouais.
Le disquaire, et Vernon est capable de répondre à tout. Alors le gars l'engage et éventuellement le prend sous son aile parce qu'il le trouve sympathique. Et un petit détail marrant, c'est que la caisse... comment t'appelles ça?
Une caisse enregistreuse?
Oui, voilà. Selon ce qu'il vend... les sonnettes, ça sonne comme des chansons.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Et c'est un passionné, le gars qui donc vend des vinyles et qui éventuellement refile sa boutique à Vernon. Mais bon, après 25 ans, vu ce qu'on sait par rapport à l'industrie de la musique et des supports.
De toute façon, ils n'ont jamais été. Oui, c'est ça ne fait pas gagner des fortunes.
Ben, à l'époque, si, quand même. Dans les années 70, là, 80, là. T'avais que ça. Ben oui, t'avais que ça.
Oui, oui.
T'avais pas le CD. La cassette, tu l'avais, mais c'est pas comme le vinyle. Et donc, il te raconte tout ça. Puis là, ben, elle te raconte du moins tout ça.
Même le CD n'est pas comme le vinyle.
Ben non seulement
si
ça, mais il y a un retour du vinyle.
Oui.
Et d'ailleurs, il y avait un article dans Le Devoir,
déjà.
Parce qu'il y a déjà des profiteurs qui vendent des trucs à des prix exorbitants. Des vinyles. Quelqu'un a vu un vinyle de plume à 2000$, des trucs comme ça.
Oh.
Ouais, ouais. Il y a toujours des petits profiteurs à droite à gauche. Et toujours est-il qu'on plonge donc dans la descente aux enfers de Vernon Subutex, qui, malgré tout, garde toujours un genre de lucidité. Et il va croiser tout au long de ce comment t'appelles ça, de ce pèlerinage involontaire,
oui.
Toutes sortes de gens, parce qu'il va falloir qu'il se fasse héberger éventuellement.
Oui, puis il y a aussi le fait qu'il va dans la rue, donc être dans la rue, tu vois après les gens, tu vois une autre façon du monde aussi, hein?
Oui, c'est ça, mais il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un autre personnage important dans ce récit-là qui est mort, en fait. C'est un de ses amis qui est devenu une vedette instantanée, avec un truc, c'est par hasard, mais le gars a fait fortune et tout ça, et d'ailleurs tout le monde se souvient de lui.
Une fois qu'il est riche.
Une fois qu'il est mort.
Ah, une fois qu'il est mort.
Voilà. Ben oui, une fois qu'il est riche aussi.
Oui.
Mais c'est un gars qui regardait pas la dépense. T'avais besoin de pognon, il te filait du pognon, et voilà.
D'accord.
Et ouais, alors, il y a deux, trois histoires, parce qu'il y a aussi une histoire d'une femme qui, pour le compte de quelqu'un d'autre, cherche à rejoindre Vernon Subutex, parce que Vernon Subutex a des cassettes qui sont le dernier témoignage de son ami
qui a eu du succès.
C'est un genre de... Il raconte sa vie, quoi, un peu, là, supposément, sur ces trois cassettes-là. Et là, tout le monde veut retrouver ces cassettes-là, évidemment.
Et, il y a ceux qui veulent le retrouver pour le souvenir, pour l'émotion, puis ceux qui veulent se faire de l'argent dessus.
Ben voilà, c'est ça. Et puis aussi pour savoir ce qu'il se dit, parce qu'on ne sait jamais.
Si jamais il y a des...
Et alors, il croise toutes sortes de gens.
Il y a de la délation.
Et aussi, ça traite, si tu veux, un peu... Ça traite de beaucoup de sujets, ce livre-là. Parce que, par exemple, à un certain moment, il y a un personnage chez qui il est hébergé, dont la fille... Parce que c'est très curieux, c'est que lui, qui est le père de cette fille-là, est tombé amoureux d'une musulmane, je ne sais pas de où. Je ne m'en rappelle plus, je ne sais même pas si c'est dit, en fait. Mais qu'il le quitte très vite, après qu'elle ait donné naissance à un enfant. Et cet enfant-là, éventuellement, découvre le Coran et veut être voilé, mais pas de manière extrême.
Pas de manière intense, simplement, elle se sent mieux comme c'est ça. Exactement, c'est sa compréhension de la vie, quand c'est sa compréhension.
Et c'est la manière que c'est dépeint, c'est assez bien fait, finalement. Puis il y a d'autres sujets, mais je sens que...
Non, c'est bon. C'est bon encore.
Parce que ça parle aussi, si tu veux, de tout le milieu transsexuel, un peu, donc, underground, si tu veux.
Bah, tout ce que tu traverses quand tu dois être dans la rue, tu dois voir de tout. Non, et en même temps, il y a cette espèce d'entraide aussi qui existe.
À un moment donné, il retrouve un ami qui est très riche.
Ah.
Et alors, il l'invite à...
Chez lui.
Chez lui. Et puis, il y a des soirées, tout ça. Et dans une des soirées, il y a cette superbe femme, OK? Donc, tout de suite, il tombe amoureux, là. Et il va coucher avec... Et en fait, c'est un transgenre, ou une transgenre, je ne sais pas comment on dit, bref. Et quand l'autre qui l'a invité découvre qu'il a couché avec, il le fout dehors. Parce que lui, c'est ça, même s'il n'a jamais touché cette personne-là, il ne faut pas que personne d'autre y touche.
Ah, d'accord.
Ouais, alors, il y a toutes sortes de trucs comme ça.
C'est une mainmise sur quelqu'un, ce qu'on ne devrait jamais faire, d'ailleurs. Comme ça, j'ai l'impression qu'à travers cette bande dessinée, elle nous retrace tous les visages, toutes les faces plus ou moins moches qu'on peut avoir.
Ben, elle nous présente des milieux, en fait, entre autres, dans ces milieux-là, c'est la coke qui coule à flot, c'est l'alcool, tout ça. Mais ça, elle a connu. Et en fait, ce que je me dis en lisant cette histoire, c'est que, oui, elle a un côté trash et tout ça, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui non seulement a une expérience de vie intéressante, mais qui est cultivée aussi. Parce que la manière dont elle écrit, ça se voit. Là. On voit qu'elle a un recul, une manière de construire le récit. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce qui l'a incité à écrire, c'est Bukowski.
Ah, d'accord.
Parce qu'elle a aimé la manière dont lui-même... Alors, ça veut dire qu'elle a donc dû lire d'autres choses aussi.
Oui.
Voilà.
Bah, écoute, en tout cas, ça donne de l'intérêt à la chose. Et moi, je trouve que... c'est important de...
Est-ce qu'on n'a pas le temps à l'use?
Ah non, très peu. Écoute, alors, tu viendras nous en reparler?
Ah d'accord, mais juste pour dire que l'use, donc, c'est un ancien dessinateur de Charlie Hebdo, qui a quitté Charlie Hebdo après les événements qu'on connaît. C'est un gars, bon bref, c'est lui qui avait fait le « Tout est pardonné ».
Oui.
Tu sais, la suite à la... Bon, voilà, c'est ça.
Oui, mais ça mériterait qu'on en parle complètement parce qu'il a toute une histoire là-dessus. Donc pour l'instant, on va partir en musique... avec les fils du facteur qui chantent Hypochondriaque. Est-ce que tu l'es, toi? Hypochondrie?
Hypochondrie.
Allons-y.
Du myocarde, fibrillation ventriculaire, dissection aortique, embolie pulmonaire, coronavirus, sida H1N1, j'ai révisé mes angélus. Ah ouais, la mort me va si bien. Tout ça, c'est dans ma tête. Tout ça,
grande faucheuse me poursuit. Un coup de faux semblant, elle me crie, c'est jamais fini. Un grain de phobie blanchit mes nuits. J'ai mal à folie, mes maladies. Mon hypochondrie, maladie orpheline. Dérèglement des reins, lymphome ou grippe porcine. Docteur, je vous jure, je vais pas bien. Staphylocoque et échymose. Chikungunya impetigo. Les bleus des fois c'est des thromboses. J'ai lu ça sur Doctissimo. Tout ça, c'est dans ma tête. Tout ça. La grande faucheuse me poursuit. À coups de faux semblant, elle me crie, c'est jamais fini. Un grain de phobie blanchit mes nuits. J'ai mal à folie, mes maladies. Mon hypochondrie. Je sais qu'il faudra payer le prix. Que le faux soigneur fait mon devis, c'est jamais fini. Et à défaut d'être en fin de vie, elle me fait des fausses maladies. Mon hypochondrie. Oh la vie c'est mortel. Je croyais quoi moi, qu'il allait toujours y avoir la façon. L'oméga. Oh la vie c'est mortel. Je croyais quoi moi, qu'il allait toujours y avoir la façon. L'oméga. Oh la vie c'est mortel. Je croyais quoi moi, qu'il allait toujours y avoir la façon. L'oméga. Oh la vie c'est mortel. Je croyais quoi moi, un jour viendra et ça se pointera pour moi.
Et voilà, alors maintenant nous allons parler de la deuxième partie de l'émission. On va recevoir Mathieu Lucier, chef d'orchestre, directeur artistique, Arion Orchestre Baroque. Vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, mais en tout cas on va entendre parler d'instruments. Toi tu avais un petit peu plus de connaissances, moi pas beaucoup, donc j'ai hâte d'en parler avec lui et d'écouter aussi un bout de cette musique, parce qu'on ne pourra pas tout passer bien sûr, mais on passera quelques minutes quand même. Donc merci, restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Surtout ne rien oublier. frapper au bon moment. Quand il vient te voir, faut savoir le recevoir. Nous, on a une chance depuis qu'on est ensemble. Faut se demander quoi faire, faut laisser le temps faire. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime.
Alors, on vient d'entendre Ariane Zita qui nous chantait « Aimer d'amour ». Et maintenant, nous sommes avec Mathieu Lucier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, bassoniste, chef d'orchestre, j'ai déjà annoncé, directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque. Et on va parler du concert « La Chapelle du Roi Soleil » qui va débuter la saison 21-22, 2021-2022, évidemment. Alors d'abord, Mathieu, bienvenue. Ça fait
merci.
Plaisir. Alors, moi, j'ai une question parce que à côté de moi, j'ai mon chroniqueur Thibaut de Corta qui, lui, connaissait, mais moi, j'ai pas une connaissance aussi aiguë. Donc, qu'est-ce qu'un bassoniste?
Ben, un bassoniste, c'est un joueur de basson.
Qu'est-ce que c'est le basson?
Le basson, c'est l'instrument le plus grave de la famille des bois, donc la famille des hautbois, les clarinettes, des flûtes. C'est comme le grand-papa de la famille des hautbois. c'est un instrument noble et comique, parfois un instrument très polyvalent qui est dans tous les orchestres symphoniques, dans tous les orchestres baroques aussi, parfois associé au violoncelle, au contrebasse. Ouais.
Alors, on va parler d'instruments surprenants. On va parler d'un instrument qui s'appelle le serpent.
Ben oui.
Et j'ai envie de poser, d'ailleurs je vais le faire, deux questions en une. Qu'est-ce que c'est comme instrument et quelle est l'histoire qui a amené cet instrument dans l'orchestre?
Oui, ben en fait, le serpent, c'est un instrument assez particulier qui est en bois, recouvert de cuir et qui est en forme de serpent, donc un grand S. Et qui se joue un peu comme tous les instruments de la famille des cuivres, alors avec une embouchure. C'est un instrument qui, en fait, fait partie de la grande famille des cornets à bouquins, qui servait à la Renaissance, puis au début du baroque, principalement à la musique sacrée. Et le serpent, en fait, avait comme utilité première et presque unique, en fait, de soutenir le chant grégorien dans les messes. Donc, ce n'était pas l'orgue qui soutenait le chant grégorien.
Ah,
quand il y avait un instrument qui donnait la note, qui donnait le ton, c'était en généralement le serpent. Et il y avait du serpent dans plusieurs églises en France et plusieurs églises au Québec aussi, jusqu'aussi tard que la fin du 19e siècle. Mais c'est un instrument qui est complètement tombé dans l'oubli depuis. Mais au 18e siècle, il se retrouvait aussi à l'orchestre dans la chapelle royale, entre autres, et dans d'autres orchestres aussi. Alors, c'est en fait, ça, c'est la partie historique. Après ça, ce qui fait qu'on a un serpent avec Arion cette semaine, ben ça, c'est une autre histoire. Assez amusante aussi, je vous raconterai si vous me le demandez.
Oui, bien sûr, je vous la demande.
En fait, c'est très drôle. Moi, donc, vous l'avez dit, je suis bassoniste, je suis aussi professeur d'université et comme bon universitaire, ben, j'ai des projets de recherche et moi, je m'intéresse particulièrement à la musique de la Révolution française. Ce qui est arrivé à la Révolution française, on s'est débarrassé de beaucoup de choses. On s'est débarrassé du roi de la reine, mais on s'est aussi débarrassé du concept de Dieu. Et donc, on s'est dit, ben, il faudrait quand même remplacer toutes ces fêtes religieuses. Alors, on a créé des fêtes républicaine, où il y avait donc des masses, des milliers de gens qui se rassemblaient et on avait besoin de musique. Et cette musique-là était en fait souvent confiée à des ensembles avant, assez grands, donc des flûtes, des hautbois, des clarinettes, mais dans lequel on a intégré aussi le serpent. Moi, je trouve ça super intéressant. Alors,
on
se débarrasse du concept de Dieu, mais on va se servir de l'instrument associé à Dieu et on va l'intégrer dans la grande harmonie avant républicaine. Et donc, moi, je m'intéresse à cette musique-là et j'ai un collègue qui me dit, mais Mathieu, pour ton projet de recherche, qu'est-ce que tu vas faire pour le serpent? Ben, j'ai dit rien, en fait, parce que sur les traités, on dit si vous n'avez pas de serpent, et personne n'a de serpent ou de joueur de serpent, ne cherchez pas à le remplacer. Mais il dit, mais non, mais Mathieu, il faut absolument acquérir un serpent. Mais je dis, mais oui, mais qui va en jouer? Je pourrais apprendre. Et moi, je dis, mais non. Et moi, il faut savoir que je suis assez impulsif. Alors, en général, ça ne me prend pas grand-chose pour me lancer dans un truc comme ça un peu impulsif. Mais là, même pour moi, c'était trop. Or, et je vais essayer de faire ça rapidement, je suis marié avec une Madame Perrin. Et donc, Madame Perrin, qui est animatrice de radio aussi, avait reçu d'un auditeur un courriel quelque temps auparavant qui lui disait « Savez-vous qu'il y a une mention d'un sieur Perrin, joueur de serpent à Québec en 1720? » Et donc, mon épouse se rend compte qu'elle a peut-être un de ses ancêtres à Québec parce qu'elle vient de Québec, qui était un des rares joueurs de serpent de la Nouvelle-France.
Alors ça, c'est extraordinaire.
Ouais, elle dit, il faut acquérir un serpent en l'honneur de cet ancêtre. Et c'est comme ça que c'est commencé. Et parce que c'était la pandémie, parce que les activités concerts étaient arrêtées, j'avais plus de temps que d'habitude. Je me suis mis à apprendre le serpent. Et ben, un an et demi après, je sais un peu jouer le serpent. Et là, je mets du serpent partout dès que je joue.
Et c'est quoi le son du serpent?
En tout cas, il est super beau en visio. Hein? L'aspect de cet instrument est très beau.
Alors, oui, c'est un bel instrument. C'est vraiment en bois, recouvert de cuir.
Quel est son son?
Ah, le son du serpent. Le son du serpent, en fait, la façon la plus simple de décrire, c'est comme la voix de Dieu. Alors, on prendrait le plus beau son de violoncelle, le plus beau son de basson et la plus belle voix de baryton. On mélangerait ça, on recouvrirait de cuir et ce serait le son du serpent.
Ah, wow. Parce que c'est intéressant ce que vous dites là, par rapport à la musique de Dieu, parce que vous parliez du chant grégorien. En fait, beaucoup d'art vient du religieux aussi, ou en tout cas, il est accolé.
Ben oui.
Et entre autres, ce qui est amusant, c'est que, enfin, si je ne me trompe pas, dans le chant grégorien, on n'avait pas le droit de faire de polyphonie.
Effectivement.
C'était hérétique.
Tout à fait. Et donc, le serpent doublait la ligne et faisait quelque chose que j'ai appris récemment qui s'appelle le en fait, faisait des variations autour de cette ligne-là, mais sans effectivement faire de rajouter d'harmonie. Là, c'était le chant pur avec des fioritures jouées par certains joueurs de serpents particulièrement virtuoses. Mais ça, pour moi, c'est un nouveau monde. Ça fait un an et demi que je suis là-dedans et ça a déjà débouché sur des projets encore plus inquiétants.
Parler de Dieu et du serpent, ça fait sourire.
Est-ce que vous diriez que la musique républicaine est plus intéressante que la musique de Dieu? Ou...
Non, en fait, bien honnêtement, même si j'ai consacré ma vie à la musique de la Révolution française, je ne peux vraiment pas dire que c'est la musique très intéressante. Je serais prêt à dire que c'est une musique qui est fascinante parce qu'elle est liée à des événements historiques, en fait, inouïs. Mais la musique sacrée, pour quelqu'un qui, comme moi, fait carrière dans le domaine de la grande musique ancienne, la musique baroque, c'est des chefs-d'œuvre. On vient de passer la journée là, à faire du Lully, du Delalande. C'est grand, c'est beau, c'est immense. Non, la Révolution, ça a amené des grandes choses, mais pas nécessairement la grande musique.
Alors justement, vous nous en parlez, vous étiez en répétition et tout ça, parce que les grands jours arrivent. On va écouter un extrait, mais alors c'est un extrait parce qu'ici on est en radio, ce qu'on préfère c'est parler avec vous, donc on va entendre juste 3 minutes, mais ça sera déjà ça, puis on en parle tout de suite après, d'accord? Restez avec nous, à tout de suite. Alors Mathieu Lucier, toujours avec nous.
Oui.
Alors on en a écouté une petite partie, hein, on s'en excuse, mais l'émission n'est pas à rallonge, donc on ne peut pas faire
ben non, je comprends.
Tout le morceau. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Vous venez d'entendre le premier mouvement d'un concerto de Vivaldi qui met en vedette Claire Guimond, qui est la fondatrice et qui a été directrice artistique d'Arion pendant 40 ans. C'est une virtuose de la flûte. Claire est de retour aussi avec nous à Arion cette semaine, pour la première fois depuis mars 2020. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que j'écoutais cette musique de Vivaldi, qui est sur un disque qu'on a fait avec Claire et moi en 2006 déjà. Ah. Donc, je réfléchissais comme ça nostalgiquement sur le temps qui passe. donc, c'est de la musique baroque.
J'étais aussi sur la nostalgie parce que j'expliquais à Thibaut que c'est exactement le style de musique pour avoir visité les châteaux de la Loire aussi. Quand on est à l'intérieur des châteaux, cette musique-là va très bien. On imagine les robes, les gens, les personnages qui traversent, etc. On a tout de suite un film qui se fait dans la tête.
Oui. Puis ce qui est formidable avec la musique baroque, c'est que c'est une musique qui était en fait un... c'est une musique des passions, c'est une musique de théâtre, une musique de contraste. Alors les compositeurs cherchaient pas à exprimer nécessairement leurs émotions, mais à faire vivre des émotions par leur musique aux auditeurs. Donc de la passion, de la tristesse, de la douceur, de la force. Et ça, ben, c'est ce qui fait que cette musique-là est encore parlante, même si on est plus de 300 ans après le décès de ces compositeurs-là.
Eh oui. Alors, juste un petit mot, parce que j'avais lu une entrevue que vous avez faite et qui m'a fait sourire quand vous avez parlé du serpent. Vous aviez dit que c'était en fait votre épiphanie covidienne. j'avais trouvé le terme très amusant.
Oui, effectivement. Mais...
une jolie façon d'expliquer notre retraite.
Oui, si puis, ben, en fait, c'est pour ça, pour des musiciens. Pour moi, apprendre un nouvel instrument, normalement, j'aurais ni eu le temps, ni même l'idée de le faire.
Oui.
Mais là, je me suis retrouvé comme bien d'autres artistes avec un peu plus de temps, des soirées libres, des fins de semaine libres, des étés sans concert pendant l'été 2020. Et donc, j'ai une disponibilité.
Puis, ça permet de se retourner, de faire autre chose. C'est ça, la créativité. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez d'autres instruments en vue, là, que vous avez envie de travailler? Est-ce que vous avez déjà des instruments surprenants?
Hélas, oui, parce qu'en fait, le serpent a eu des descendants avant de s'éteindre. Et donc, en fait, au début du 19e siècle, on a cherché à mécaniser un peu le serpent. Et on lui a donné on le pliait en forme de basson en métal. Et ça a donné un instrument qui s'est appelé l'ophicléide. Ophi étant la racine grecque de serpent et cléide, donc un serpent à clé. Et donc, c'est un instrument qui a été extrêmement populaire mais très peu de temps. Alors, les premiers officiels ont été construits en 1817. En 1870-75, c'était presque disparu parce que ça a été, en fait, ça a été conçu pour être la base de des vents à l'orchestre. Puis finalement, quand le tuba a été inventé, ça a déclassé l'ophicléide. Mais c'est un instrument magnifique et que je me suis aussi mis à apprendre par le serpent. Et là, au grand désespoir de mon entourage aussi, je me suis rendu compte qu'entre le serpent et l'ophicléide, ben, il y avait aussi d'autres choses, dont un instrument qui s'appelle le basson russe, qui n'est pas un basson, qui est en fait un serpent en forme de basson et qui n'est pas russe non plus.
Mais qui emporte le nom.
Mais exactement. Comme le corps anglais n'a rien d'anglais, ni le corps français,
mais oui.
Quoi que ce soit de français. Donc, pourquoi pas un basson russe? Et donc, ça devrait arriver avant Noël. Et j'ai aussi appris l'existence du serpent militaire, qui est un serpent plié différemment et qui joue un peu plus fort, qui est utilisé en Angleterre au 19e siècle. Alors, vraiment, là, je viens de me découvrir un terrain de jeu. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai tout un terrain de jeu pour les prochaines années.
Ben, bravo pour vous. On viendra entendre ça. Enfin, pour l'instant, on l'entend le 19, le 20 novembre à 19h30 et le 21 novembre à 14h à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts. Mais on n'en a pas fini. Je faisais simplement un petit aparté sur les dates, ne pas oublier, oui. Parce que c'est cette fin de semaine. Qu'est-ce qui attire, à votre avis, qu'est-ce qui plaît au public dans la musique baroque? Quels sont les retours que vous avez quand vous faites des spectacles?
Ben, en fait, c'est une musique qui est assez facile d'accès et je pense que chaque auditeur est capable de se lier d'une façon qui lui est propre, de façon intime à cette musique-là. Chacun vient chercher quelque chose qui lui est propre. Je pense que nos auditeurs sont fidèles depuis, c'est la 41e saison d'Arion, aiment bon, la musique qu'on joue, qui est cette musique magnifique, tout en contraste, tout en émotion, l'énergie aussi des musiciens et musiciennes sur scène, la façon aussi très très accessible, très dans l'instant dont avec laquelle on livre cette musique-là. Il n'y a rien de guindé, il n'y a rien de trop sérieux non plus. Cette musique-là, finalement, n'a pas d'âge quand elle est livrée sur scène. Puis c'est vraiment avec confiance que le public vient chez nous. Les musiciens et musiciennes d'Arion jouent avec des instruments d'époque, dont les instruments comme ils étaient construits à l'époque, ça donne une couleur, une saveur particulière à cette musique-là. Mais c'est vraiment, je pense, le plaisir qu'on a sur scène, qui est communicatif et qui est partagé avec un public fidèle qui fait que Carillon est une si belle histoire depuis 40 ans.
Oui, puis en plus, à la salle Bourgie, je le répète, les 19, 20 novembre, 19h30 et le 21 novembre à 14h, c'est une salle absolument magnifique. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je voudrais juste qu'on dise un mot sur le fait que vous êtes professeur à l'Université de Montréal.
Oui, avec beaucoup de fierté.
Alors, comment ça se passe avec les élèves, je veux dire? Il y en a qui sont passionnés, intéressés, qui connaissent déjà, qui ne connaissent pas. Enfin, vous les amenez à la découverte?
On les amène à la découverte, c'est sûr. Ça fait partie de leur parcours chez nous. On vient de traverser pour l'université, pour les écoles de musique, une année difficile.
Oui.
Nous, à la faculté de musique, on a construit dès l'été 2020 une extension à la scène de la salle Claude Champagne, transformant presque la superficie complète du parterre en extension à la scène, ce qui nous a permis de continuer nos activités, faire jouer les étudiants et étudiantes tout au long de la saison passée et cette saison aussi. Là, tout le monde est rentré. La musique, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Il n'y a pas un métier de la musique, il y a des métiers de la musique.
Oui, c'est vrai.
Chacun de nos diplômés va sortir. Certains vont opter pour des formes un peu plus traditionnelles, mais beaucoup chez nous vont créer leur propre voix. On a un département de musique numérique en émergence. On a aussi une grande école d'interprétation classique, grande école de jazz aussi. Alors, c'est très varié. Puis au contact des uns et des autres, nos étudiants et étudiantes, finalement, vont créer des liens, à la fois d'amitié, mais des liens musicaux aussi, qui vont teinter leur parcours par la suite. On est très fiers de ça, puis on essaie aussi de mériter de mériter que nos étudiants nous aient choisis, puis d'être à l'affût, de se dire, d'essayer d'anticiper sur ce que sera la musique avec toute cette dématérialisation-là aussi qu'on vit, qui est préoccupante. Mais la passion chez les jeunes, elle est là, la curiosité aussi. Puis on a une équipe de professeurs vraiment dédiée à leur ouvrir le
plus grand possible. Vous faites certainement partie de ces professeurs qui doivent ouvrir leur curiosité, en tout cas, allumer leur curiosité. On vous remercie beaucoup, Mathieu Lucier, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de faire votre connaissance.
Ben, c'est réciproque. Oui.
Et puis, à bientôt. Et puis donc, on répète, 19-20 novembre, salle Bourgie, à 19h30, 21 novembre à 14h. Au revoir, Mathieu Lucier.
Au revoir, à bientôt. Bonne journée, au revoir.
For 3 years, one day she kept smiling with her rollerbladed laundry hallway. First phrase of your 20s is your freedom, they say. I guess she owned every minute, it was hers, and none can take them away. I mean, it's not that deep when you come from that dump. It in the town is a lot of fun. You read what she sold, but not at 20 for sure. I hope she owned every minute. They say mama was a rolling, smoking, drinking all the time, feeding herself only with strawberry jam. They say mama was a rolling. These days have passed, some decades already. Say mama was a rolling, smoking, drinking all the time, feeding herself only with strawberry jam.
D'entendre Hendrik and the Sandwiches qui nous chantait Mama's Rollerblade. Voilà. Alors, je dois dire merci. On va d'abord saluer notre chef d'orchestre Mathieu Lucier. Merci beaucoup. Et puis, on n'oublie pas les dates. Et puis, merci Thibaut de Corta parce que.
C'est un plaisir.
Tu as encore amené quelque chose de nouveau. Puis, du coup, en allant voir la pièce de théâtre sur Vernon Subutex, je vais le voir d'une autre façon parce que
tu
m'auras présenté la bande dessinée. Donc, merci à vous tous, à vous toutes et vous tous. On va se retrouver demain. Et puis, pour tous ceux qui veulent m'écrire, m'envoyer des messages ou me faire des suggestions, vous pouvez me l'envoyer à mon adresse mail, c'est-à-dire farahartlette@gmail.com. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà, pour tous. On se dit bye-bye. À toi, on te revoit dans
le
un mois.
Le mois prochain, oui, exactement.
Pour encore une autre bande dessinée que tu vas nous faire découvrir.
Absolument.
Que tu ne sais peut-être pas encore ce que c'est, mais tu vas le découvrir.
Absolument.
tu vas le découvrir au moment où...
Oui, sinon ça serait trop facile.
Ben oui, mais je comprends bien. Puis même si tu le savais, je suis sûre que tu ne voudrais pas nous le dire.
Voilà.
Donc, au revoir à toutes et tous. À demain. Même heure, même endroit. Bye.